le petit fakir.
Tout le monde a lu ce petit journal.
Bizarre.
Il se le passe.
Pour ne pas dire étrange.
Qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique?
Le petit fakir n'a jamais peur du pire.
Bizarre.
Fakir est un journal alternatif basé à Amiens. On vous propose un entretien avec Fabian, il y est dessinateur et directeur de publication. On l'a croisé le 17 avril dernier à Méricourt, près de Lens, à l'occasion du printemps de Politis 62.
Fakir est un journal amiennois. Il a fonctionné pendant 10 ans sur Amiens entre 1999 et 2009. Et en 2009, on a cassé notre tirelire pour se lancer en national. Donc là, on a fait, depuis avril 2009, on a lancé 5 journaux en national, avec un premier sujet qui était à la veille des européennes, qui était titré sur le scandale du supermarché européen. Et là, le dernier en date qui vient de sortir à l'instant, c'est sur ce que nos papiers ont construit et ce que l'élite démolit, pardon. Et ça, c'est un gros dossier qui traite de la façon dont on essaye de démonter progressivement et systématiquement les acquis du programme du Conseil national de la Résistance.
Alors au départ, hein, donc c'était quand même un journal plutôt sur des affaires amiennoises, donc un journal de critique sociale aussi de satire, hein, il me semble.
Oui.
Et comment en fait c'est devenu un journal national? Comment est venue l'idée? Quelle démarche?
Alors en fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est vrai qu'on est une petite association sur Amiens. On a longtemps fonctionné à 3 ou 4. Donc, et puis quelques bénévoles qui passaient comme ça occasionnellement. Mais il y a quand même aussi un phénomène de lassitude qui s'installe, même pour les rédacteurs, de voir toujours les mêmes personnes, de faire toujours un peu les mêmes sujets. Et donc il y avait aussi une envie de se lancer en national, clairement, de faire un journal d'enquête sociale à l'échelle nationale, puisque le rédacteur en chef, qui est François Ruffin, trouvait qu'en papier, il n'y avait pas tellement ce type de presse. Et puis il y avait aussi les rencontres qu'on avait pu faire tout au long des 10 ans. Notre rédacteur en chef qui écrit des livres tournait pas mal en France pour présenter ses livres. Et il y avait toujours des journalistes qui venaient le voir en fin de conférence pour dire mais comment on peut aider Fakir, la démarche nous intéresse. Et pour eux, s'investir à Amiens, c'était difficile. Ils étaient soit dans les Vosges, soit en Ardèche. Donc l'idée, c'était un peu de réunir plusieurs plumes pour faire ce journal national.
Alors aujourd'hui, ça ressemble à quoi le Fakir?
Aujourd'hui, Fakir, on est plutôt content de ce que c'est, puisque c'est 48 pages d'enquête sociale, tout en couleur, avec des formes variées. Il y a de la bande dessinée, il y a des vraies enquêtes de fond, il y a des brèves, et puis des petits sujets un peu plus légers. Enfin, en tout cas, on est content de ce qu'on produit. Maintenant, la difficulté, c'est de faire connaître le journal, parce que la bataille des kiosques, c'est une bataille difficile. C'est difficile de se faire une place chez les kiosquiers entre Marie-Claire et Gala, parce que les kiosquiers qui ne connaissent pas ce journal n'ont pas forcément envie de le mettre en avant. Donc ça, c'est notre grande bataille, et c'est la prochaine à mener, la prochaine à gagner, on espère.
Comment ça se passe alors, au niveau de la distribution?
La distribution, on passe par un diffuseur national qui s'appelle les Messageries Lyonnaises de Presse, qui diffuse aussi des journaux qu'on peut considérer comme amis, comme La Décroissance, Le Plan B, Le Sarcophage. Et donc, forcément, prennent une marge sur les ventes. Et donc, au début, on a tiré à pas mal d'exemplaires, 40 000 exemplaires. On a dû redescendre à 25 000 parce que, étant donné la difficulté à faire reconnaître le journal, il y a pas mal de journaux qui peuvent passer au pilon, enfin qui sont détruits. Et donc, nous, on a un peu baissé l'impression et la diffusion pour perdre un peu moins d'argent et pour essayer de cibler un peu plus les lieux où on était mieux vendu. On a essayé de se renseigner un peu sur les lieux qui nous vendaient le plus, et on a essayé de se concentrer sur ces lieux-là.
Donc ça représente combien d'exemplaires, combien de lecteurs pour le Fakir?
Alors au début, on est parti à 10 000 exemplaires. Les premiers numéros, ça va toujours assez bien quand c'est une découverte. Là, je pense qu'on stagne plutôt entre 8 et 9 000. Et on est à peu près à 1500 abonnés, un peu moins de 1500 abonnés. Et l'objectif, ça serait qu'il y en ait 2000. Donc, si les auditeurs veulent bien s'abonner, il n'y a pas de problème, on fait un appel. encore 5 ou 600 abonnés et financièrement ça sera pas mal pour nous.
Alors justement, peut-être pour donner envie ou pas aux gens de s'abonner, est-ce que tu peux nous parler de, par exemple du dernier numéro, de quoi ça parle dans le dernier numéro?
Alors comme je le disais, le dernier numéro, il y a un très gros dossier qui parle du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où nos grands-parents avait construit un modèle social qui visait à remettre la France, j'allais dire, sur les rails, avec la création de la sécurité sociale, la création des retraites, la création d'une médecine pour tous. Et aujourd'hui, tout ce modèle social qui était écrit dans le programme du Conseil national de la Résistance est en train d'être détricoté, rongé, puisqu'on dit que c'est on appelle le dossier les rongeurs des jours heureux. Parce que les jours heureux, c'était le titre du programme du Conseil national de résistance. Et aujourd'hui, ce programme est en train d'être rongé petit à petit par nos élites qui sans cesse nous disent « maintenant, on peut plus financer les retraites, on peut plus… il y a un trou de la sécu qui est énorme », alors que quand on y pense, le pays n'a jamais été aussi riche. Et à l'époque, nos grands-parents partaient d'un pays qui était en ruine et ils ont réussi malgré tout à construire tout ça et à faire en sorte que les gens puissent vivre mieux. Et aujourd'hui, on essaye de rogner sur tout ça et pour autant, à ce qu'on sache, les richesses sont bien là. Il y a des gens qui vivent de mieux en mieux. Et par contre, il y en a d'autres qui vivent de moins en moins bien, quoi. Et on nous demande toujours de payer plus et pour une qualité de vie qui se dégrade.
Quand vous abordez un dossier comme ça, c'est quoi vos outils journalistiques? C'est d'aller chercher les gens qui… Enfin, comment vous y êtes pris pour aborder ce sujet, en fait?
Alors, pour ce dossier, en fait, il faut quand même dire qu'il y a notre rédacteur en chef qui collabore à un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle « Les jours heureux », justement, qui, comme je le disais, le nom du programme du Conseil national de la Résistance. Et donc, lui, il est parti de son travail pour faire un bilan historique. Donc il est allé chercher dans les archives un bilan historique de qui avait créé la sécu, les retraites, l'assurance maladie. Par contre, on explique après comment, par l'intermédiaire par exemple de Claude Bébéard, de Laurence Parisot, d'Éric Woerth, on essaye de privatiser tout ce système et de faire en sorte que les gens se dirigent plus, non pas par… se dirigent plus vers des assurances privées, et donc un système qui favorise les plus riches et qui met en difficulté les plus modestes financièrement. Pour illustrer ça, on a fait aussi dans ce numéro, puisqu'on a plusieurs formes d'expression, une bande dessinée qui s'appelle « Les bonnes fées de Jojo », qui raconte comment un enfant à la naissance peut être câliné, il peut être soigné par toute une équipe d'infirmières, et comment cette équipe d'infirmières peut avoir des difficultés de plus en plus à devoir exercer ses fonctions, parce qu'on leur dit toujours que maintenant les usagers sont désormais des clients. Et voilà la réforme que je vous lis. Hein. Il faut s'accrocher avec tous leurs projets, hôpital 2012, tarification à l'acte, réduction des coûts sur réduction des coûts. Il y a même des papiers, on ne parle plus de patients mais de clients. Donc une bande dessinée qui montre aussi le témoignage des infirmières et qui explique leurs difficultés au quotidien pour assurer une bonne naissance à tous les enfants de ce pays. Et il y a aussi un passage où on évoque Maurice Krigel-Valrimont, qui était un résistant communiste à l'époque, en 1945, et qui nous explique lui aussi comment à l'époque le pays qui était en ruine a pu malgré tout construire la sécurité sociale. Alors, je peux lire un petit passage de ce qu'il disait dans son interview, qu'on a retranscrite en BD. « La France n'avait plus de pont, la France n'avait plus d'acier, la France n'avait plus d'énergie, et pourtant nous avons fait la sécurité sociale. C'est qu'à la libération, les forces dirigeantes ne dirigeaient plus rien. C'est évident pour l'armée, mais pour la magistrature. Combien de magistrats ont refusé de prêter serment à Pétain? Un seul. Dans toute la France, la haute administration, les églises, les forces économiques, directement au service des Allemands. Les élites n'étaient plus là pour dire « ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable ». Alors nous avons fait la sécurité sociale, nous avons fait les retraites et rapidement. Parce que vous savez bien à quelle vitesse, ensuite, on revient en arrière, à toute allure et en y mettant la cravache. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on a des tas de gens qui monopolisent les médias, qui monopolisent les journaux, les radios, les télévisions, et qui nous disent « c'est pas possible, c'est pas raisonnable, on peut plus financer les retraites, la sécurité sociale, etc. » Alors que Maurice Criolle Valrimont disait « c'est pas vrai, aujourd'hui on peut le faire, on n'a jamais été aussi riche et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas se faire ça ».
Dernière partie de notre entretien avec Fabian de Fakir, il nous parle de la remise du radis d'or, un article à lire dans le numéro d'avril.
Dans le précédent numéro, on avait établi une liste de prétendants au radis d'or. Alors le radis d'or c'était quoi? C'était sous la 4ème République. Il y avait les... Comment s'appelle ce mouvement politique? Les radicaux, voilà. Les radicaux de gauche, on les appelait les radis d'or. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rouges à l'extérieur, blancs à l'intérieur et toujours près de l'assiette au beurre. C'était des gens de gauche, mais qui étaient prêts à se corrompre et à trahir leurs idées pour avoir une petite place au pouvoir, quitte à ce que ce soit dans un gouvernement de droite. Donc on a fait une liste de gens aujourd'hui qui, au Parti Socialiste, pourraient gagner le radis d'or. Et donc nos lecteurs ont voté. Nous, on voulait, on avait décidé par avance de le décerner à Dominique Strauss-Kahn, mais nos lecteurs ont préféré le remettre à Manuel Valls. Et alors dans le numéro actuel, il y a un coursier qui s'est rendu au siège de l'UMP parce qu'il pensait que Manuel Valls était à l'UMP, mais on lui a dit « bah non, c'est pas là ». Il est passé au siège du PS, mais il n'était pas là non plus. Et donc, on est allé à l'Assemblée nationale. Et là, on a été accueillis par des gens qui accueillent les visiteurs. Et bon, ben, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, je vous laisse lire le présent numéro de Fakir. Voilà. Comme ça, vous saurez si Manuel Valls a eu son radis d'or ou pas.
Fabian, dessinateur et directeur de publication de Fakir, un journal alternatif basé à Amiens, dispo dans tous les bons kiosques, à retrouver aussi en ligne au www.fakirpresse.info. Sur ce site, des articles, des liens, mais aussi des émissions de radio dont sont extraites les illustrations musicales de ce sujet.
Les morts se sont réveillés, une rose a poussé, nous voilà en plein cœur de l'arche de la Noé. Martine Aubridge, c'est une bête. Ça fait 35 heures qu'elle vous le répète.
100 km à pied, Fabius, Fabius. 100 km à pied, Fabius, on est sous l'air.
Car quiconque y goûte un jour au pouvoir finit par se noyer dans son verre de rocard. Je rénove, tu rénoves, il rénove, nous rénovons, vous rénovez, il rénove, je rénove, tu rénoves, il rénove. Land Drive, le mauvais cheval, c'est bad interdit de se faire un peu de mal. Jack Lang de Bois, c'est l'opéra de 4 sous, et ça fait des années
que mon bourre le mou.
J'ose pas vous le dire, y'a rien à faire, faudrait nettoyer tout ça au Kouchner. J'ose pas vous le dire, y'a rien à faire, faudrait nettoyer tout ça au Kouchner. Je rénove. Retourne en enfer. La paille, la royale, c'était que du folklore.
Alors qu'ils avaient tous entre les mains
de l'or. Le constat est amer pour les éléphants. Le bon vieux Jaurès n'est plus qu'un mythe errant. Le constat est amer pour les éléphants. Le bon vieux Jaurès n'est plus qu'un mythe errant.
Et Strauss-Kahn? Pourquoi Strauss-Kahn? Eh ben Strauss-Kahn, il est à New York. Eh ben alors, pas de problème.